Alors, bienvenue à chacun à cet atelier. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé d'atelier, ça va être un peu compliqué de changer d'endroit. Donc, cet atelier a pour titre « Former la prochaine génération pour un ministère qui honore Dieu ». Alors, je me présente, Dominique Angers, je suis enseignant ici à l'Institut biblique de Genève. Et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Jean de Corvet, qui est le directeur de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, donc juste de l'autre côté du lac. Et oui, les relations entre les deux instituts sont excellentes, comme vous pouvez le constater. Cet atelier en est la preuve. Même si nous avons bien l'intention à Genève de ramener un certain trophée de ce côté du lac lors du tournoi sportif annuel qui aura lieu dans quelques semaines. Et l'enjeu est de taille. Alors Jean et moi allons intervenir à tour de rôle sur ce thème de la formation. Donc je vais commencer et puis Jean aura tout le loisir de me corriger et d'avoir le dernier mot. En fait, c'est vous qui allez peut-être avoir le dernier mot puisqu'il y aura aussi une période de quelques minutes à la fin pour réagir, pour poser des questions, pour formuler un commentaire suite à ce qui aura été dit. Je vais prier. Seigneur, nous te demandons de nous encourager cet après-midi par ce thème de la formation, un thème tellement important dans ta parole. Fais-nous du bien par le Saint-Esprit et par les grandes vérités de l'Écriture, par nos échanges, par la communion fraternelle. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors ce sujet, mine de rien, est quand même très complexe. Plusieurs angles d'approche pourraient être pris en compte et de nombreux aspects qui varient en fonction des personnes que l'on souhaite former. Qui d'entre nous peut détenir toutes les clés de la formation des futurs responsables? Quel lieu de formation peut se vanter d'avoir choisi toutes les bonnes priorités pour la formation? À titre personnel, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce thème de la formation. Plusieurs dossiers restent ouverts dans mon esprit et je suis loin d'avoir toutes les réponses que j'aimerais avoir sur ce sujet. C'est donc en tant que frère en chemin dans ce domaine que j'aimerais vous faire part de quelques réflexions cet après-midi. Dans ma présentation, j'aimerais aborder deux questions principales, toutes simples. Quel type de responsable souhaitons-nous former et comment former ce type de responsable? Mais d'abord, il nous a semblé important à Jean et à moi de vous faire part brièvement de notre témoignage personnel, dans les grandes lignes, en matière de formation, de vous tracer les grandes lignes de notre propre formation avec ses joies, avec aussi certainement ses lacunes. Personne n'aborde le thème de la formation de manière tout à fait neutre ou objective, et notre propre parcours y est en général pour quelque chose. On peut vouloir imposer aux autres ce qu'on a soi-même vécu, ou peut-être, si on a connu des frustrations en ce qui concerne notre propre formation, on peut aussi être en réaction par rapport à notre cheminement, ce qui peut conduire à des excès ou à des négligences. Je me considère toujours en formation dans plein de domaines, mais je vais évoquer les étapes, je dirais, plus officielles de ma formation pour un ministère à temps plein, qui a d'abord été un ministère pastoral, Et maintenant, donc, je suis enseignant ici à l'Institut. Alors, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, j'ai fréquenté une petite église baptiste au Québec dans laquelle je me suis converti. Ma mère était chrétienne. Elle s'est convertie quand j'avais 6 ans. Mon père, lui, ne l'était pas, ne l'est toujours pas. J'étais un enfant et un adolescent très timide et particulièrement timide quand il s'agissait de m'afficher comme chrétien devant mes copains. C'était vraiment très difficile pour moi. Jamais je n'aurais imaginé, en grandissant, devenir un jour pasteur. Les exposés oraux à l'école me donnaient suffisamment de maux d'estomac. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de m'imposer de fortes doses de ce supplice. Mais à 18 ans, comme pas mal de jeunes de mon association d'église, Et comme ma sœur avant moi, j'ai participé à un projet d'évangélisation. Je pense qu'il y en a l'un ou l'autre Québécois dans la salle qui connaissent. Ça s'appelait JBEC, Jeunesse Baptiste Évangélique du Québec. Au cours de ce projet, donc pendant l'été, on nous donnait en début d'été une courte formation biblique d'une ou deux semaines sur les grands thèmes de la Bible et une formation très sommaire pour évangéliser. Puis on nous envoyait par équipe de 5 ou 6 évangéliser dans 3 régions du Québec, 3 semaines à la fois. Donc ça durait tout l'été. L'approche d'évangélisation était tout à fait classique. On faisait du porte-à-porte et puis on évangélisait dans les parcs. Voilà, on interrogeait les gens sur leurs convictions. C'était une méthode assez simple, mais on avait pas mal d'occasions quand même d'expliquer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Dans chacune des 3 régions où on se retrouvait, on était accueillis donc par une église locale et par un pasteur qui, pendant ces 3 semaines, consacrait toutes ses matinées à notre formation. Il nous dispensait un enseignement. Et donc, à Chicoutimi, qui est la 3e ville où je me suis retrouvé, le pasteur David Ditinichin, avec 4 Y, il avait particulièrement à cœur notre formation. Et donc, pendant 3 semaines, il nous a fait goûter à l'étude inductive du livre des Proverbes. Il nous a appris à nous poser les bonnes questions pour arriver à dégager le sens du texte. Et ces matinées dans les Proverbes, je peux dire aujourd'hui qu'elles ont changé ma vie, puisque pour la première fois, j'avais jamais vécu ça avant, pour la première fois, j'étudiais l'écriture pour moi-même et j'essayais d'en tirer des applications personnelles. JBEC, ce projet m'a aussi apporté autre chose. Aussi, pour la première fois, je prenais plaisir à témoigner de ma foi. Et ça, c'était une nouveauté, à tel point que j'ai ressenti une envie de m'engager dans un ministère à temps plein, sans doute le pastorat, puisque je ne connaissais pas autre chose, et j'étais d'ailleurs convaincu dans ma naïveté que le ministère pastoral ne serait en fait que le prolongement à vie de ce beau projet d'été qui avait bouleversé mon existence. Bon, pas tout à fait ça, mais il y a quand même un certain recoupement. À la fin de l'été, le pasteur, ce même pasteur David Ditinichin, a pris au sérieux ce désir, certes naïf et mal éclairé, mais il a quand même pris ça au sérieux et il m'a proposé de déménager dans sa ville à Chicoutimi et d'y poursuivre mes études, hein, le cursus général que je suivais à l'époque. On pouvait se faire partout au Québec et donc je continuais ces études tout en continuant à être formé par lui pour discerner si le Seigneur m'appelait effectivement au ministère pastoral et si c'était le cas, pour m'y préparer. Donc pendant 1 année, j'ai été formé par David, qui devenait ainsi pour moi un mentor. On se voyait toutes les semaines, parfois tous les 15 jours. On continuait d'étudier l'écriture ensemble, mais aussi on parlait de ma vie personnelle, de mes luttes, de mes difficultés, de mes projets. Lui me donnait son avis, on priait ensemble. On a même mis par écrit les différentes étapes de formation qu'il me faudrait sans doute franchir dans les années à venir. Moi, j'imaginais être pasteur 2 ou 3 ans plus tard. Alors lui, il essayait de me faire comprendre que je n'étais pas du tout prêt et qu'il fallait plutôt se projeter sur une bonne dizaine d'années minimum. Donc, je passais beaucoup de temps chez David. J'observais sa vie de couple, sa vie de famille. Et dans l'église, David me donnait aussi des occasions de servir. Il m'a même proposé de prêcher, ce qui a failli me faire fuir cette belle ville de Chicoutimi. Mais heureusement, David m'a accompagné pendant des mois pour préparer cette prédication, à laquelle je préfère ne plus trop penser. Et c'est vrai qu'il était aussi présent pour me dispenser les premiers soins ensuite à la prédication elle-même. Donc en parallèle, j'étais responsable d'un petit GBU dans cette région, mais je dois reconnaître que ce ministère était assez difficile et que les fruits, en tout cas les fruits visibles, étaient vraiment limités, on va dire. L'année suivante, donc, j'ai suivi les conseils de David et j'ai entrepris une formation séculière, comme on dit. J'ai quitté Chicoutimi, je me suis installé à Montréal pour être formé à la fac en tant que prof d'anglais. Pour moi, c'était une étape, je n'avais pas une grande passion pour ça. Mais je me disais que si Dieu m'appelait un jour à la mission à l'étranger, c'est vrai que l'enseignement de l'anglais est une bonne carte d'entrée, donc ça pourrait être utile. Et j'en ai profité pour commencer l'apprentissage des langues bibliques dans cette fac, et d'ailleurs, dans la providence de Dieu, pour le grec, je suis tombé sur un doctorant évangélique qui avait fait Vaux-sur-Seine, mais qui faisait son doctorat dans cette faculté libérale, Marc de Banet, qui m'a aussi encouragé dans mes projets de ministère. Après l'obtention de ma licence, je me suis rendu aux États-Unis, à Trinity, pour y étudier cette fois enfin la théologie, ce qui était devenu un rêve. Donc là, j'étais vraiment heureux de pouvoir me former dans ce domaine. Et pendant 4 ans, je me suis régalé des cours qui m'étaient proposés, du projet de recherche aussi qui a conclu mes années d'études là-bas. Et l'église que je fréquentais était aussi pour moi un véritable lieu de formation. Donc Mike Bollmore, le pasteur, tout en enseignant, il était pasteur de cette église, de cette implantation d'église, tout en enseignant la prédication et la théologie pratique à Trinity. Donc il était aux deux endroits. Il sera d'ailleurs notre invité, petite pause publicitaire, pour le prochain séminaire de l'école de prédication de l'IBG en mars prochain. Mais donc, je bénéficiais de ses cours de homilétique en semaine et je pouvais écouter ses prédications le dimanche. Donc, il y avait une certaine cohérence qui m'était vraiment utile, d'autant plus que je n'avais pas eu beaucoup de bons modèles de prédication, on va dire, en grandissant. Et donc, voilà, je découvrais la prédication textuelle par ce prédicateur et cet enseignant. Et en plus de ça, cette jeune église avait vraiment à cœur la formation dans l'église des étudiants de théologie, puisque la faculté n'était pas trop loin. Et donc, j'ai pu y faire un certain nombre de mini-stages pratiques avec différents pasteurs de l'église. En revanche, j'ai fait mon stage pastoral principal, qui durait 2 mois, dans mon église d'origine au Québec pendant l'été. Alors, suite à mes études aux États-Unis, j'ai accepté avec Laura, qui était devenue mon épouse, un poste pastoral en Alsace, à Wittenheim. Et même si le ministère à temps plein commençait, la formation se poursuivait. En parallèle, j'ai entrepris une thèse à Strasbourg, mais surtout, je continuais d'être accompagné. Les premières années de mon ministère pastoral n'ont pas été faciles, pour différentes raisons, et je dis souvent que ce qui a fait que je n'ai pas abandonné le ministère, peut-être ce ministère-là, mais peut-être même plus largement le ministère, suite à cette expérience difficile au début, c'est sans doute le suivi pastoral dont j'ai moi-même bénéficié. Pendant cette période plus difficile, un pasteur de l'église que j'avais fréquenté donc aux États-Unis pendant mes études, ce n'était pas Mac Bollmore, mais c'était un autre pasteur, me téléphonait toutes les semaines pour me demander comment ça allait, pour prendre des nouvelles de l'église. Il ne parlait pas un mot de français, mais il connaissait par cœur le prénom de plein de membres de l'église parce qu'on discutait des différentes situations. Il priait pour moi, il priait pour l'église, et peu à peu la situation s'est améliorée, si bien qu'il nous a coûté à Laura et à moi de quitter cette église à laquelle on s'était attaché quelques années plus tard pour rejoindre l'IBG après un ministère pastoral de 5 ans. Mais nous ne le regrettons pas puisque la formation est aussi un ministère vraiment enthousiasmant. Donc je m'arrête là pour ce témoignage, mais quand je réfléchis un peu à ma propre formation, je fais un certain nombre de constats. Ma formation a été assez longue, bon tout est relatif, mais quand même une dizaine d'années entre le sentiment d'appel au ministère pastoral et le début d'un ministère temps plein. Autre constat, Dieu a souverainement orchestré les choses et je pense qu'il le fait pour chacun, chacune. Il y a plusieurs étapes que je n'aurais pas du tout pu planifier ou prévoir. Troisième constat, la dimension relationnelle a été très importante pour moi. J'ai eu quelques mentors qui ont eu un grand impact dans ma vie et peut-être que mon besoin de mentor était plus grand du fait que je n'avais pas eu un père chrétien pour me former, pour me conseiller spirituellement. Autre constat, malgré ces relations fortes avec des mentors, la vie pastorale a comporté dès le début plusieurs aspects pour lesquels je ne me sentais pas vraiment préparé. J'ai donc eu besoin d'un accompagnement pastoral ou d'un coaching en tant que pasteur. Autre constat, parmi les lacunes ou les désavantages que je peux relever, il y en aurait bien d'autres, mais vous avez pris note que j'ai été formé pour le ministère pastoral dans une culture autre que celle dans laquelle j'ai exercé un ministère pastoral, et donc forcément, ça crée un certain nombre de difficultés, il fallait s'adapter, et vous avez aussi pris note que je n'ai pas vraiment exercé un travail séculier sur plusieurs années avant d'entrer dans le ministère, comme c'est le cas de beaucoup, qui en général sont reconnaissants d'avoir vécu cette expérience professionnelle et reconnaissent que cela leur est vraiment utile aussi pour le ministère pastoral. Donc moi, je n'ai pas eu cette expérience. Dernière remarque, plus générale, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu à ce témoignage, je me suis rendu compte que toute réflexion, et ça vaut aussi pour la suite de ce que je vais vous proposer, toute réflexion sur la formation peut vite devenir réductrice et même un peu artificielle. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire là en quelques minutes? J'ai essayé de vous résumer ce que je considère être les étapes principales de ma formation, qui comprennent donc des études, des relations avec des mentors, des stages pratiques. Mais en réalité, Dieu ne nous forme pas que dans ces cadres-là. Je pourrais vous amener sur la petite route de campagne sur laquelle je me trouvais au Québec à 18 ans, seul dans ma voiture pour aller célébrer l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. J'écoutais une prédication sur Romains 12, 1 et 2 et cette prédication m'a bouleversé. Dieu m'a envoyé un électrochoc par ces deux versets, tout en me gardant d'avoir un accident, merci Seigneur. Et pourtant, ce rendez-vous divin ne s'est pas produit pendant un cours de théologie ou lors d'un échange avec un mentor. Donc on n'était pas, si on veut, dans la formation officielle. Mais Dieu nous forme même quand nous ne pensons pas être en formation. Ne l'oublions pas, Dieu ne prend jamais de vacances scolaires. Donc j'en arrive aux deux grandes questions. Première question, et je vais aller assez rapidement. Quel type de responsable souhaitons-nous former? Alors, il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je m'intéresse ici à cette question de manière générale, globale. Je suis à la recherche de résumés utiles de réponses à cette question. Et en préparant cet atelier, j'ai été particulièrement édifié par deux réponses complémentaires, deux faces d'une même pièce, deux formulations pertinente et édifiante pour nous aujourd'hui, en tout cas, elles l'ont été pour moi. La première réponse provient d'un exposé donné par John Piper en 1998 sur le thème de la formation des pasteurs et des missionnaires. Et je résume, je paraphrase. Mais nous souhaitons former, d'après Piper, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et qui le glorifient en faisant de lui leur trésor ultime et leur source de satisfaction par excellence. Alors que fait Piper ici? Il prend comme point de départ l'objectif de tout chrétien, connaître Dieu. Et il raisonne selon le principe « à combien plus forte raison hein ?» Si tous les chrétiens ont pour objectif de mieux connaître Dieu, « à combien plus forte raison ?» Les responsables chrétiens doivent-ils s'approprier eux-mêmes cet objectif? De plus, Piper s'inspire de la première affirmation du petit catéchisme de Westminster. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et ceux qui connaissent les livres et les prédications de John Piper savent qu'il a une manière particulière de relier les deux parties de cette affirmation. Glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur éternel, Piper affirme que nous glorifions Dieu en trouvant en lui notre bonheur éternel. Le meilleur moyen de glorifier Dieu, c'est de trouver tout notre plaisir en lui. Plus nous sommes heureux en Dieu, plus Dieu est glorifié par nous. Et là, je vous renvoie aux ouvrages de Piper pour une explication plus étoffée de ce principe. Maintenant, comment est-ce que Piper justifie la mise en avant d'un tel objectif global pour la formation, objectif qui peut paraître a priori assez distant de nos préoccupations concrètes quand on pense à la relève dans nos églises et dans nos œuvres chrétiennes. Alors Piper donne 5 raisons, j'en mentionne 3, et donc il a surtout à l'esprit les pasteurs, la formation des pasteurs et des missionnaires. Première raison, l'objectif premier des pasteurs et des missionnaires est d'amener davantage d'individus et de peuples à connaître Dieu et à prendre plaisir en lui plus qu'en toute autre chose. Par conséquent, le plus grand besoin des responsables est de posséder eux-mêmes cette connaissance de Dieu et de se délecter de lui. Et Piper ajoute, une lacune dans un autre domaine peut nuire à notre ministère, mais une lacune dans ce domaine-là détruira notre ministère. Autrement dit, le meilleur moyen de faire connaître Dieu à d'autres, c'est de croître régulièrement dans sa propre connaissance intime de Dieu. Deuxième raison que donne Piper, quand cet objectif-là est atteint, quand on grandit dans notre connaissance de Dieu, tout le reste dans le ministère, donc les relations, les responsabilités, tout le reste est soutenu par de bonnes motivations et par une focalisation sur Dieu lui-même. On trouve alors en lui la force nécessaire pour accomplir tout ce qui est secondaire par rapport à cet objectif premier, qui est de connaître et d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est donc l'idée qu'en l'essentiel, connaître Dieu est notre passion dans le ministère, on a alors une juste perspective sur les défis variés du quotidien. Et troisième raison, quand cet objectif est atteint, quand on grandit dans notre connaissance de Dieu, quand on prend plaisir en lui, on est préparé pour la souffrance et pour les souffrances du ministère. On expérimente une libération qui nous permet de payer le prix fort pour aimer, qui nous permet d'accepter de tout perdre pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On est libéré en vue d'accomplir le grand mandat missionnaire. Et Piper ajoute, « Si nous ne sommes pas prêts à prendre de grands risques pour l'œuvre de Dieu, pourquoi les gens devraient-ils croire que notre trésor est dans les cieux, en Dieu ? Pourquoi les gens devraient-ils croire que Dieu a plus de valeur à nos yeux que toute autre chose ?» Si nous ne sommes pas prêts à prendre de grands risques pour Dieu. La seconde réponse qui m'a particulièrement interpellé provient directement du ministère de Jésus et de son travail de formation envers les disciples. Elle s'inspire donc de la pédagogie de Jésus. Et j'en profite pour renvoyer à deux articles très intéressants sur la question. Un article d'Henri Blocher, « Jésus éducateur », paru dans Ictus en 1985. Et un article plus récent de Keith Ferdinando sur le même sujet paru dans Temelios en 2013, qui d'ailleurs s'inspire de l'article de M. Blocher. Alors si j'avais à résumer la seconde réponse, ce serait dans ces mots, « Nous souhaitons former des hommes et des femmes qui accomplissent le mandat missionnaire laissé par Jésus à ses disciples. » Alors l'idée est la suivante. Dès le début de la formation des disciples, Jésus les a informés de l'objectif de leur formation. Il leur a dit en Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et à la fin de leur formation, il a réitéré ce même objectif, cette fois sous la forme de ce qu'on appelle le grand mandat missionnaire, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, mais qui est dans la même ligne que Matthieu 4, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et entre ces deux déclarations, Jésus a régulièrement rappelé aux disciples la nature de leur vocation. Et encore une fois, c'est l'argument « à combien plus forte raison ?» Si tous les disciples ont reçu ce mandat missionnaire, à combien plus forte raison les responsables chrétiens doivent-ils s'approprier ce grand mandat missionnaire? Quel type de responsables souhaitons-nous former? Des pêcheurs d'hommes qui accomplissent le mandat missionnaire que Jésus nous a confié. Est-ce que cela signifie que nous ne formons que des évangélistes? Non, mais tout responsable chrétien devrait avoir pour objectif l'accomplissement du grand mandat missionnaire de Matthieu 28 et tout responsable chrétien devrait pouvoir situer son propre ministère dans ce cadre. Autrement dit, tout ministère devrait contribuer de manière directe ou indirecte à la mission confiée à l'Église. Évidemment, cet objectif général qui est valable pour tous devra être précisé en fonction du ministère particulier de chacun. Certains aspects de la formation seront propres aux pasteurs, aux futurs pasteurs, aux évangélistes, ou aux enseignants, ou aux missionnaires à l'étranger, ou aux responsables d'œuvre, ou aux personnes qui travaillent parmi les enfants, parmi les jeunes, et j'en passe. Mais ultimement, nous voulons former des pêcheurs d'hommes. Alors que répondrait Piper à cela? Lui qui nous a donné une première réponse. Alors je ne peux pas parler pour John, mais je pense qu'il dirait « Amen ». Connaître Dieu et prendre plaisir en lui, c'est la meilleure préparation pour accomplir le grand mandat missionnaire, qu'il s'agisse d'évangéliser ou d'instruire les disciples. Voilà donc deux réponses qui, je pense, se complètent. Deuxième grande question, et là je serai plus bref. Comment former ce type de responsable? Dans la plupart des lieux de formation, parce que c'est le cas à Emmaüs, c'est le cas à l'IBG, c'est le cas également ailleurs, on a l'habitude de dire qu'il faut travailler sur le caractère, sur les connaissances et sur les compétences. Et c'est une bonne manière de résumer les aspects de la formation. Je suis tout à fait d'accord avec cette manière de décrire la formation, à condition que ces trois domaines soient explicitement rattachés à l'objectif principal, qui est de former des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et qui sont des pêcheurs d'hommes. Parce que si on détache ces trois domaines du but, on aboutit à une formation très superficielle. Alors j'aimerais traiter rapidement la question du comment former en proposant deux moyens de formation, deux lieux de formation et trois variantes en fonction des personnes. Deux moyens de formation, donc ce n'est pas une liste qui est exhaustive, mais j'essaie de me concentrer sur ce qui me semble être l'essentiel. Un premier moyen de formation, c'est la transmission de la parole. Une grande partie de la formation se produit par l'enseignement et la méditation ou l'étude de l'Écriture. Méditation pratiquée individuellement et avec d'autres chrétiens. 2 Timothée 3,16 est un verset clé ici par rapport à la formation. Ce qui permet à l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, d'être formé et équipé pour toute œuvre bonne, c'est l'Écriture. C'est pas rien quand même. Être formé et équipé pour toute œuvre bonne, c'est l'Écriture qui nous prépare à cela. L'Écriture qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. D'ailleurs, si l'objectif principal est de former des responsables qui connaissent Dieu, c'est bien par sa parole qu'ils pourront mieux le connaître. Et c'est aussi la parole qui leur apprendra à mettre en priorité dans leur vie le grand mandat missionnaire de Jésus. Donc on revient à l'objectif. Le moyen, c'est la transmission de la parole. Deuxième moyen qui est relié au premier, le contact étroit avec des modèles. Jésus a été un formateur, un mentor pour les disciples. Paul a été un mentor pour Timothée et pour d'autres. Nous avons aussi besoin de mentors qui ont à l'esprit notre progrès sur le plan du caractère, des connaissances et des compétences. En général, ce qui demande le plus d'attention, c'est le caractère. On a besoin de mentors qui nous disent la vérité à notre sujet et qui nous posent les bonnes questions pour établir un diagnostic juste de notre état de santé spirituelle. Et c'est aussi le caractère qui nous qualifie pour le ministère et qui peut malheureusement nous disqualifier du ministère. Alors, une citation du livre dont j'ai parlé ce matin, « L'essentiel dans l'Église, apprendre de la vigne et de son treillis », parce qu'il est pas mal question de formation dans ce livre. Donc pour mettre en rapport les deux moyens, on lit ceci. « Le cœur de la formation n'est donc pas la transmission d'une capacité, c'est plutôt la transmission de la saine doctrine. » Donc là, on est dans la transmission de la parole, le cœur de la formation. « Cependant, cette transmission du bon dépôt de l'Évangile ne se résume pas en un simple exercice éducatif. Elle est profondément et inévitablement relationnelle. En effet, lorsqu'on observe la relation entre Paul et Timothée, il devient évident que la formation de Timothée impliquait bien plus qu'un simple transfert de capacités ou d'informations. Cette relation de proximité était le cadre privilégié dans lequel se développait un élément clé de la formation que Paul entendait dispenser à Timothée, l'imitation. Donc, transmission de la parole et imitation. Paul n'a pas seulement confié à Timothée le bon dépôt de l'Évangile, mais aussi une manière de vivre. Fin de citation. Voilà pour les deux moyens, en tout cas deux des moyens principaux de formation. Deux lieux de formation, et là je ne parle pas ici de lieux de formation comme Emmaüs ou l'IBG, étant parfaitement objectif, je n'ai bien entendu aucun avis sur cette question-là. Non, je parle plutôt des lieux de formation en général. Dans quel cadre, au pluriel, la formation se déroule-t-elle? Et ne commettons pas l'erreur de réduire la formation aux quelques années passées dans un institut biblique ou dans une faculté de théologie. On pourrait mentionner plusieurs cadres, mais il me semble qu'il y en a quand même deux qui sont particulièrement importants. L'église locale. C'est quand même là que se déroule premièrement et peut-être surtout, enfin idéalement en tout cas, la transmission de la parole et également le contact avec des modèles. Et un deuxième cadre, la salle de classe qui permet d'aller plus loin, peut-être en particulier sur le plan des connaissances, mais pas seulement, également en ce qui concerne les compétences et même en ce qui concerne le caractère, puisqu'on on a tous été, je pense, marqués en classe par des enseignants qui, par leur vie, nous ont touchés. Et je termine, avant de laisser la place à Jean, avec trois variantes en fonction des personnes. Une première variante, l'étendue des connaissances transmises. En fonction peut-être du type de ministère visé, en fonction aussi des capacités et du désir de la personne. Est-ce qu'il faut absolument enseigner, est-ce qu'il faut enseigner les langues bibliques, par exemple? Et bien entendu, on ne peut pas répondre oui ou non, ça dépend. C'est une variante. Deuxième variante, la nature des compétences transmises qui seront adaptés, enfin qui varieront en fonction du ministère visé. Donc, ces deux aspects parmi les trois que j'ai mentionnés tout à l'heure peuvent varier considérablement pour les différentes personnes qui sont formées. Mais ce qui ne change pas, ou qui ne devrait pas changer en revanche, c'est l'insistance sur la formation du caractère. Ça, peu importe le ministère visé, on le voit dans le Nouveau Testament. Si on compare les qualités des diacres et des anciens, en ce qui concerne le caractère, c'est la même liste de qualités. Donc là, ça n'est pas une variante, c'est une constante. Troisième variante, la part réalisée, la part de formation qui sera réalisée dans le contexte de l'église locale et la part de la formation qui sera réalisé en institut biblique ou en faculté de théologie. Et là, il y a différentes manières de vivre les choses. Par exemple, ici à Genève, à partir de la deuxième année, on a des stages dans les églises. Donc, pour vivre cette alternance salle de classe et église locale, mais il y a différentes manières de voir les choses et de faire les choses. Et là aussi, je termine peut-être par l'exemple qui est donné, l'exemple australien, qui est expliqué dans ce livre autour de ce qu'ils appellent l'apprentissage du ministère. Alors, les auteurs nous posent la question, que se passe-t-il entre le moment où quelqu'un manifeste un potentiel pour des responsabilités particulières dans le service de l'Évangile et le moment où il entre effectivement dans un ministère à temps plein? La réponse habituelle, nous disent ces auteurs, est l'école biblique ou la faculté de théologie. Cependant, et là c'est l'expérience australienne sur plusieurs années, un nombre croissant d'églises et de candidats au ministère passe par une étape intermédiaire, donc entre l'identification de qualités particulières, de compétences particulières pour le ministère et la faculté de théologie ou l'institut biblique. Il s'agit d'un stage précédant la formation théologique qui vise à éprouver et à développer les aptitudes du candidat avant qu'il exerce un ministère à temps plein. Et dans cette situation en Australie, c'est un stage qui dure quand même 2 ans, avec un mentorat intensif pour pouvoir répondre à la question « Est-ce que je suis appelé à un ministère à temps plein ou pas ?» Et bien entendu, ça rallonge la formation considérablement, mais les auteurs nous donnent un certain nombre d'avantages. Après, je ne dis pas qu'il faut refaire exactement la même chose, mais ça nous amène quand même à réfléchir à l'articulation entre le cadre de l'église locale et le cadre de la salle de cours. Parmi les avantages qui sont mentionnés, les stagiaires apprennent à mettre en relation la parole, la vie et le ministère. Deuxièmement, donc pendant ce stage de 2 ans dans l'église locale, deuxièmement, les stagiaires sont mis à l'épreuve dans leur caractère. Je pense que les difficultés ont l'occasion de se manifester pendant ces 2 années. Troisièmement, les stagiaires apprennent que le ministère concerne les personnes et non pas surtout les programmes, puisque pendant ces 2 années de stage, l'engagement dans un ministère de type relationnel est très intense. Quatrièmement, les stagiaires sont bien préparés aux études théologiques, bien entendu. Quand on arrive en salle de cours après avoir vécu un stage de 2 ans, je pense qu'on a plein de questions auxquelles on espère trouver des réponses. Cinquièmement, les stagiaires découvrent le ministère dans le monde réel pendant ces 2 années. Sixièmement, les stagiaires apprennent à former d'autres personnes puisqu'ils sont déjà engagés dans un mentorat eux-mêmes. Ils forment des nouveaux convertis, par exemple, dans l'Église, de manière que le ministère croisse et se multiplie. Donc, ils vont à leur tour devenir des formateurs. Et septièmement, les stagiaires apprennent à évangéliser et à faire preuve d'initiative dans le ministère. Et cela, bien entendu, est un atout qui reste important pour la suite. Je vais m'arrêter là. Et donc, je donne la parole à Jean pour la deuxième partie de cet atelier. J'enlève ça. Puis j'enlève ça si tu veux. Je laisse là. D'accord.
Si je fais tomber ta montre, je la rembourserai. Merci. Voilà, c'est vrai que c'est une joie aussi pour, bien sûr pour moi d'être là. De l'autre côté du lac, comme ça a été dit, tout en étant loin, quelques kilomètres, proche de cœur, de communion, c'est vrai que c'est quelque chose de fort de pouvoir faire ensemble un atelier, l'IBG, l'IBME, où nous travaillons à la gloire d'un même Seigneur. On a pensé cet atelier ensemble, en reprenant des questions les mêmes, mais en les déclinant de façon un tout petit peu différente. Donc, je vais reprendre les 2 questions qui ont été posées par Dominique en essayant de les décliner ou de les articuler sous un angle un peu différent pour finalement ouvrir l'éventail de ce que, à quoi correspond former la prochaine génération pour un ministère qui honore Dieu. Et puis, comme Dominique a commencé par quelques mots de présentation personnelle, je ferai la même chose. Là, vous voyez une photo du campus, en l'occurrence d'Emmaüs. Et puis, comme il y avait des photos pour tout le monde, tous les orateurs à droite à gauche, donc du coup, j'en ai rajouté une. voilà. Qui vient se greffer en haut à droite. Donc, en quelques mots, pour aller rapidement, donc je suis actuellement à l'IBM, dont vous voyez ici le campus, sous un angle, sous un autre angle, vous verriez le lac et les montagnes, qui est un institut biblique et missionnaire. Donc, le but étant d'avoir aussi un accent qui soit à la fois biblique, à la fois théologique, à la fois missionnaire. On rejoint tout ce qui a été dit précédemment. Je n'ai pas tout le temps été directeur de l'IBM. Il y a un parcours qui ait pris du temps entre le moment, comme ça a été dit d'ailleurs, entre le moment où on sent, on perçoit où on est, il y a une espèce d'assurance personnelle quant à l'appel qui est donné sur sa vie, et le moment où on est engagé à plein temps dans un ministère. Pour moi, c'était de l'ordre de 12 ans, même si l'appel est arrivé très tôt, puisque l'engagement à plein temps est arrivé à 24 ans. Donc 24 moins 12, je pense que mathématiques élémentaires, on arrive à 12. Donc c'est vrai que vers les 11-12 ans, déjà à ce moment-là, je pense qu'avec la foi d'un enfant de 11-12 ans, c'est possible de percevoir, de sentir et d'entrer dans ce que l'on croit être un appel profond et réel de Dieu pour le ministère pastoral, ou en tout cas pour le servir et l'honorer. Venant d'une famille pastorale, même de lignée pastorale, pour être tout à fait franc, il y a eu un élément instinctif qui est de penser ministère égal pastoral. Et donc, je me suis engagé corps et âme, à fond la caisse, dans le groupe de jeunes, en prenant les études les plus directes pour aller jusqu'à la faculté de théologie, donc en prenant déjà les langues anciennes au gymnase, pour pouvoir à prendre de l'avance pour l'université. Puis accessoirement, j'aimais bien l'Antiquité, donc ça tombait bien. Et l'arrière-plan avant ça, c'est un arrière-plan ligueur, puisque je suis né dans la marmite de la Ligue, sur le campus de la Ligue à Vennes, qui a déménagé, d'ailleurs, dans les bureaux ont déménagé sur le campus à Emmaüs. C'est magnifique de voir les synergies qu'on peut créer. Ça, c'est mon arrière-plan qui, évidemment, m'a profondément influencé. Puis, venant, comme j'ai dit, d'une famille pastorale, mon père était engagé dans une paroisse réformée évangélique au-dessus de Vevey, avec la possibilité de s'engager dans un groupe de jeunes où j'ai pu mettre toute mon énergie dans ce groupe-là, avec des camps de ski, et vous savez tous à quel point des camps ou des accompagnements, des cellules, etc., forment au fond déjà dans l'adolescence le caractère. À un moment, cet appel qu'on a sur sa vie doit être de plus en plus personnel, il doit être confirmé. C'était l'occasion pour moi, à travers le groupe de jeunes, de pouvoir avoir des signes, et on en a toujours besoin, de confirmation de cet appel, avant d'entrer dans le bain de la formation théologique. Venant d'arrière-plan réformé, le lieu le plus naturel qui se présentait à moi pour faire la formation théologique, c'était l'Université de Lausanne. Donc je suis entré à la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, avec une petite douche froide à la clé, qui est un enseignement dont tout n'est pas, on ne va pas être caricatural non plus, tout n'est pas à jeter, mais il est vrai qu'il y a eu une confrontation assez directe, on va dire, et même assez franche, et même consciente, entre une théologie ou bien un enseignement qui se veut déthéologisé, c'est-à-dire on prend une distance complète face à la foi devient un objet d'étude, point, et une foi qu'on peut vivre intérieurement. Et au bout d'un moment, soit il y a une espèce de schizophrénie qui vient, soit on se dit il faut pouvoir articuler ça d'une manière ou d'une autre. Et j'ai eu besoin de pouvoir l'articuler personnellement, non seulement au niveau de ma foi, mais aussi au niveau de ma pensée, en allant alors une année à Vaux-sur-Seine. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études à Lausanne, à Vaux-sur-Seine, avant de revenir à Lausanne, même un échange avec l'université de Göttingen en Allemagne, pour revenir en Suisse et être consacré dans l'église réformée. Pour partir illico, avant la consécration, au Zimbabwe, pour travailler avec la Ligue, donc quand on parle de formation, voilà, un autre élément de l'éventail, et en termes très pratiques, environ une année de présence à la Ligue au Zimbabwe, dans un contexte qui est celui d'aide aux Sidéens, par exemple, ou d'accompagnement des animateurs, l'équivalent des gymnases sur place, je crois avoir finalement plus appris quant aux compétences sur le terrain, ou quant à la manière d'être, probablement, que lors de toutes mes études à l'université. Ce qui ne veut pas dire, et j'y reviendrai, que l'université n'est pas importante. Loin s'en faut. Il s'agit juste de se poser la question, comment on articule les choses? Puis après le pastorat, Launay-Prévranche, Yverdon, j'ai aussi fait un doctorat à Wheaton College, non pas à côté de Trinity, donc vers Chicago, en théologie systématique. Et donc l'enjeu de la formation, plus précisément celle d'une génération qui honore Dieu, est au fond le cœur de ce qui est mon engagement ecclésial dès l'âge même de 12 ans. Et ça continue parce que l'apprentissage est continuel, comme ça nous a été rappelé. Je passerai bien sûr sur les engagements divers à droite, à gauche, nous en avons tous dans différents conseils, groupes, intercessions, etc. Ce que j'aimerais traiter maintenant, c'est cette fameuse question de l'articulation. En lien avec la première question, quel type de responsable chrétien souhaitons-nous vraiment former? Et je vous invite à lire. Vivre chrétiennement, c'est vivre du pardon que Dieu nous offre dans sa parole. Car ce n'est pas l'idée de la grâce de Dieu qui libère l'homme de son péché, mais bien la parole de Dieu qui nous dispense, c'est-à-dire me dispense et te dispense, chaque fois la grâce de Dieu. Cette parole de grâce est incarnée en Jésus-Christ, qui est présent comme parole de Dieu dans la prédication de l'Église. Est-ce que vous avez une idée de qui a pu écrire ça, soit dit en passant? Allez, un peu de courage là. Luther? Barthes? Pas tout à fait la même chose. Pardon? Bonnefère? Ok, continuons. La parole pardonnante de Dieu n'est pas une vérité générale, un enseignement sur la grâce de Dieu, ni un récit de l'histoire de Jésus-Christ. La parole du pardon me délivre du passé dont je suis chargé chaque fois que j'aborde mon présent. La grâce pardonnante de Dieu devient donc concrète dans l'instant. Il est bien question de parole, il est bien question de pardon, il est bien question de prédication d'Église, d'où je pense une des premières réactions qui est « c'est Luther ». C'est Rudolf Bultmann. Pour les théologiens, je pense que vous saurez que Bultmann est dans le spectre théologique ce qui se rapproche le plus, ou plutôt ce qui s'éloigne le plus du mouvement évangélique. C'est donc intéressant de voir que quand on dit formation, ou quand on développe les trois axes dont on a parlé, quelque part, ça ne suffit pas. Si on résume, un des maîtres mots de Bultmann, c'est le pardon. Il parle de vie, vie du pardon de Dieu. Qui est contre la vivre du pardon de Dieu? Personne. Il parle de parole, parole du Christ libératrice, qui soit pertinente. Pas qu'il soit une espèce de bulle de savon comme ça qui flotte au-dessus de nos têtes, qui soit pertinente pour mon présent. Elle doit donc être proclamée. C'est ce que Bultmann dit. Une grâce qui ne soit pas un rationalisme, ni du légalisme, mais une expérience concrète. On retrouve la notion d'expérimenter personnellement en son fort intérieur ce que Dieu donne à son Église. Une expérience concrète de la parole pardonnante de Dieu. Tout ça est présent chez Bultmann. Il parle de l'Église comme d'une communauté appelée à proclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement Dieu a attendu 2014 et Jean de Corvey et Dominique Anger pour parler à son Église. Non, il y a une notion, une conscience d'une communauté ecclésiale à laquelle j'appartiens. On voit donc bien que dans les axes de formation, il y en a beaucoup qui sont présents chez Bultmann avec de grandes forces. La notion de vie, la notion d'être pertinent aujourd'hui, comment dire l'Évangile à notre société, c'était ça sa préoccupation. L'expérimenter concrètement dans la communauté. Et pourtant, on n'est pas d'accord avec Bultmann. Alors pourquoi n'est-on pas d'accord avec Bultmann? C'est vrai qu'il y a des dérives. Les dérives, j'y viendrai tout à l'heure, mais pour parler assez rapidement, et pour ceux qui connaissent Bultmann, sans forcément faire un cours sur Rudolf Bultmann juste maintenant, quand même rappeler que pour lui, la parole de Dieu n'est pas tout à fait la même chose que ce que l'on met, nous, derrière le terme. La parole de Dieu, c'est même pas Christ en tant que pleinement homme, pleinement Dieu. C'est assurément pas l'Écriture. Même par rapport au Christ, ce n'est pas un Christ qui est pleinement homme, pleinement Dieu. La parole de Dieu, c'est d'abord l'événement aujourd'hui par lequel Dieu me touche, par lequel Dieu m'interpelle et par lequel Dieu me libère de mon passé. Et de cet événement qui prend sens par l'interpellation de la parole que je trouve dans la Bible, donc en la lisant dans la Bible, alors il découle de là une nouvelle compréhension de qui je suis en tant qu'être chrétien face à Dieu et dans l'Église. Donc, pour résumer ça en français courant, au fond, c'est tout simple et assez séduisant. Il explique que pour lui, il y a un kérigme. Alors, ça, ce n'est pas le français courant, mais la traduction littérale, c'est proclamation. Voilà. Il y a une proclamation de l'Évangile. Qui est contre la proclamation de l'Évangile ? Personne. Il y a une proclamation de l'Évangile qui m'interpelle. Cette proclamation, je la trouve dans la Bible. Elle m'interpelle aujourd'hui, en 2014. Pour lui, c'était plutôt des années 50, 60, etc. Et à cette époque-là, on ne peut plus comprendre la Bible comme c'était le cas il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans, parce qu'il y a une distance. Donc je dois lire la Bible avec une grille de lecture. Alors on dira, c'est l'herméneutique, l'interprétation que n'importe quel centre de formation enseigne. Sauf que lui, il met un terme très particulier là derrière, qui est démythologisation. Donc il y a du mythe dans la Bible, il faut démythologiser. Mais il n'est pas totalement idiot non plus, parce que quand on lit dans la Bible, montagnes et collines battront des mains, excusez-moi, mais les montagnes ne battent pas des mains. Donc il dit, de même qu'il y a des images dans la Bible, montagnes et collines battront des mains, il y a des images dans la Bible pour montrer la proclamation de l'Évangile. Et la proclamation de l'Évangile est celle que Jésus a dite, et ça a été raconté par les auteurs bibliques avec une mise en récit mythologique, par exemple la résurrection. On sait très bien qu'un corps, une fois qu'il est mort, il est mort, il se décompose. Donc la résurrection, c'est un mythe. Alors on tire à boulet rouge sur Bultmann, et on a raison sur certains points, il faut bien discerner. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que derrière Bultmann et derrière sa démythologisation, il y a des notions qui sont extrêmement fortes, comme pardon, parole, grâce, église. Tout ça est présent. Et pour discerner entre ce qui est derrière ces mots, qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre du poison, si j'ose dire, dans l'église. Parce que je crois que la démythologisation est quelque chose qui a plus vocation à détruire l'Église qu'à la construire. Une certaine formation est nécessaire. Et là, on entre dans l'axe aussi de la connaissance, le savoir-connaissance, pour pouvoir discerner. Une autre petite phrase, allez. Autre époque, Monseigneur. En général, c'est comme ça que les étudiants s'adressent aux enseignants à Emmaüs. Donc, Monseigneur, je suis chrétien et sincèrement chrétien selon la doctrine de l'Évangile. Je suis chrétien non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Qui a dit ça? Bon, vous me direz, vous nous avez eu une fois, ou tu m'as eu une fois, maintenant, on a compris. Qui a dit ça? Jean Hus, pré-réformateur, 15e. Luther. Jean Hus, pré-réformateur, réformateur, c'est du lourd, là. D'accord. Alors, on continue. Mon maître a peu subtilisé sur le dogme. et beaucoup insistaient sur les devoirs. Ils prescrivaient moins d'articles de foi que de bonnes œuvres. Ils n'ordonnaient de croire que ce qui était nécessaire pour être bon. Quand ils résumaient la loi et les prophètes, c'était bien plus des actes de vertu que dans des formules de croyance. Et il m'a dit par lui-même et par ses apôtres que celui qui aime son frère a accompli la loi. Alors dans la deuxième phrase, on voit qu'il y a déjà des indices qui nous montrent que... Que quoi ? Pardon ? Des œuvres. Qu'il y a une assistance sur les bonnes œuvres. Et donc celui qui a écrit, c'est Jean-Jacques Rousseau. À chaque fois, vous aurez remarqué, un des noms qui est sorti, c'est Luther. Or, à chaque fois, c'est Bultmann, Rousseau, pas précisément les grenouilles de Bénitier auxquelles on pense, ou c'est en tout cas pas des clones de Billy Graham, on va dire. Un des maîtres mots de Rousseau, c'est « chrétien ». Être selon l'Évangile, on retrouve l'élément du caractère. Rousseau avait pleinement conscience qu'il est important de travailler sur son caractère pour être chrétien. Un autre des maîtres mots, c'est « disciple ». Qui est contre le fait de faire des disciples ici ? Personne. C'est exactement ce qu'il met en avant. « Je suis disciple ». Arrêtons de nous bagarrer pour des queues de cerises. On est d'abord des disciples. C'est exactement ce qu'il dit Rousseau, là. Il faut suivre, non pas une religion. On n'est pas dans la religiosité. Mais Christ. Combien de fois n'entend-on pas ce type de discours aujourd'hui ? Souvent d'ailleurs avec raison. Ne nous attachons pas d'abord à la religion, mais regardons à Christ. C'est vrai, à Christ seul, c'est vrai. N'empêche que dit tel quel, Rousseau peut le dire aussi. Est-ce que vous êtes tous rousseauistes pour autant ? Je ne crois pas. Il parle de dogme. Et il s'en distancie un peu parce qu'il est contre le dogmatisme. Il est contre le fait de vouloir couper les cheveux en quatre. Il est d'abord pour une orientation de l'être, notre être entier, qui puisse accomplir vertu. Alors on pourrait dire que c'est les bonnes œuvres. Peut-être. En même temps, être vertueux, c'est pas une tare, on va dire. Être charitable, c'est pas une tare. Développer l'amour pour son prochain, pour son épouse et pour ses enfants, c'est plutôt quelque chose qu'il faut rechercher également. Et l'amour, qui pour lui est le contraire d'une formule toute faite, mais au contraire l'amour du prochain. On retrouve les textes bibliques. Donc on retrouve là également des forces dans le message de Rousseau, c'est pour ça qu'il a fait mouche, hein, auprès des pasteurs de Genève. Je rappelle qu'à l'époque, Rousseau a une énorme influence sur les pasteurs de Genève. Même si après il s'est retourné contre eux dans ses lettres écrites de la montagne, si vous ne les avez pas lues, c'est un bijou de style littéraire et en même temps de sarcasme anti-ecclésiastique. Oups, mais c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il met le doigt là où il faut le mettre, quoi. Et en gros, il dit, mais là j'ai de mémoire, parce qu'à un moment il avait pris la défense des pasteurs genevois contre les attaques de Voltaire et de Diderot face à la montée du libéralisme à Genève et d'une pensée donc hérétique de type arienne, socinienne, etc. Il prend la défense des pasteurs de Genève contre Voltaire et Diderot. Il fallait quand même oser s'attaquer à Voltaire, le maître de la plume trempée au vitriol. Il fallait quand même avoir les tripes, quoi. Et puis Voltaire le lui rend bien, évidemment. Et finalement, le corps pastoral genevois se retourne contre Rousseau. Alors là, c'est Rousseau qui trempe sa plume au vitriol et qui dit « Un philosophe pense les émouvoir et pense les prendre leur défense. Et qu'entend-on un charivari de cette compagnie des pasteurs ? Et voici qu'on ne sait ni ce qu'ils croient, ni ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas ce qu'ils font semblant de croire. » Voilà pour Rousseau. Donc on retrouve là aussi l'importance d'un savoir, connaissance pour discerner. De quoi parle-t-on? Et si on n'arrive pas à discerner, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai dit, j'ai fait mes études à Lausanne. Ça m'a profondément marqué. Sur la volée sur laquelle on était quand je suis entré, beaucoup s'affirmaient, orthodoxes, évangéliques, et de ce groupe-là, beaucoup aujourd'hui renient ce terme-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté la foi chrétienne. Le Seigneur connaît les cœurs, a lui seul le jugement, et heureusement. mais il est remarquable de constater que dans ce groupe-là, beaucoup se sont retirés du monde évangélique, ont renié même ce terme, et certains ont même quitté l'Église. L'importance de pouvoir discerner. Je me souviens très bien d'un camarade de classe qui disait « De toute façon, quoi qu'il ait dit, ça coule sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. » Et 10 ans après, il ne va plus du tout à l'église. Donc non, ça n'a pas coulé comme de l'eau sur les plumes d'un canard, ce n'est pas vrai. Ça l'a profondément marqué. Il était beaucoup plus l'éponge qu'il croyait. Et nous sommes tous une éponge de notre formation, que ce soit une formation en fac, en institut, en église, où qu'on soit. D'où l'importance d'être conscient des enjeux pour pouvoir lire, discerner ce qu'on nous dit, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Alors, quel type de responsable voulons-nous former? Comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs axes qui sont pleinement intégrés par Bultmann et Rousseau. Donc, l'axe en tant que tel est juste, c'est juste, mais il faut savoir comment le décliner. Surgit même avec Rousseau et Bultmann une espèce de quatrième axe de formation qui est un savoir devenir. Et là, je pense que c'est, en l'occurrence, assez juste. C'est savoir connaissance, oui. Savoir compétence, donc savoir-faire, oui. Savoir-être, en tant que caractère, travailler sur le caractère, oui. Du coup, savoir devenir, comment est-ce que dans la durée, je suis chrétien, comment est-ce que dans la durée, je témoigne de l'espérance qui est en moi? Ou est-ce qu'après 10 ans, quand j'ai dit, oh, pas de problème, ce sera comme de l'eau sur les plumes d'un canard, résultat, après je quitte l'église. Il faut savoir devenir. Et j'ai mis CF aussi, PEC. PEC, c'est une abréviation, un acronyme pour pratique éthique de la communication, qui est un nouveau programme qu'on a lancé à Emmaüs. Quant au premier axe, savoir connaissance, je l'ai dit, il est en fait aussi présent chez Bultmann et Rousseau. Et c'est là que se trouve un des enjeux majeurs, à savoir, cet axe-là, lequel est-il? Est-ce qu'on peut avoir une formation qui fasse en sorte que cet axe-là ne perturbe pas les autres? Parce que si on part d'un savoir-connaissance tel que Bultmann, ça a des implications quant à ses compétences, quant à son être. Si on part du principe qu'il faut tout démythologiser, ça aura des répercussions dans toute l'Église. Pour faire un très mauvais jeu de mots, j'avais entendu une fois quelqu'un qui disait, à force de proclamer que Jésus et sa résurrection est un mythe, ça crée des chrétiens miteux. Dans le sens que ça enlève une force fondamentale dans notre message. Idem pour Rousseau quant à sa volonté que l'homme n'est de toute façon bon. Il n'y a plus de péché originel. Alors j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui est dans Jean 17, qui me semble-t-il nous donne quelques pistes intéressantes par rapport à l'articulation de ces savoirs dont on a parlé ou de ces axes dont on a parlé. Alors qu'on ne peut pas lire tout le chapitre 17, parce que ça fait un peu long, je vais prendre juste quelques versets, en commençant par le verset 6. Donc Jean 17, verset 6. C'est la fameuse prière sacerdotale. Je rappelle que nous sommes dans les discours d'adieu, qui sont les chapitres 14 à 16, qui sont eux-mêmes entourés par deux magnifiques chapitres. Dans les discours d'adieu, où Jésus lui-même parle à ses disciples, avant la crucifixion, la mort et la résurrection, et dans ce temps-là, dans le chapitre qui précède, comment est-ce qu'il enseigne ses disciples ? En lavant les pieds. C'est Jean 13. Il commence l'enseignement du chapitre des discours d'adieu par le lavement des pieds. En termes d'être et de caractère, voilà un enseignement qui est fort. L'autre chapitre qui entoure les discours d'adieu, c'est ce chapitre 17, qui est une grande prière, qui montre là aussi, en termes de caractère, que peut-être ce qui lie les différents axes, ce qui doit lier les différents axes, c'est que chaque axe, qu'il s'agisse de la connaissance, de la compétence, de l'être ou du devenir, doit être fait dans la prière. Et c'est ce que Jésus fait au chapitre 17. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Et un peu plus loin, verset 16 à 21. « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ou sanctifie-les par ta vérité, selon les traductions. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en eux à travers leurs paroles. Afin que tous soient comme toi, Père, tu es en moi comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et le dernier verset du chapitre qui est magnifique dans sa récapitulation, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que moi je sois en eux. » C'est un verset, notamment le verset 17 qu'on connaît bien, « Sanctifie-les par la vérité ou consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et c'est souvent un verset qu'on prend, qu'on détache d'ailleurs un peu du contexte, et qu'on exhibe comme ça, « Ta parole est la vérité. » On dit, ben voilà, la Bible est la vérité. Ta parole est la vérité. Tout ce que dit la Bible est la vérité. Ce verset ne dit pas exactement ça. Oui, il le dit, mais il le dit d'une façon dynamique. Je rappelle, par rapport au contexte, qu'on est dans un contexte de prière, le monde, la communauté des croyants sont opposés dans ce chapitre. C'est le verset 16 qui est lu. Mais c'est la première des trois choses. La communauté chrétienne n'est pas appelée à se retirer du monde. Elle n'est pas appelée à devenir une bulle, ou une secte, ou je ne sais pas quoi. Deuxièmement, elle ne condamne pas le monde. C'est le paraclet, donc l'Esprit Saint qui convainc de péché. Ce ne sont pas les disciples, c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché. Mais l'Église cherche à faire connaître au monde la vérité et l'amour de Dieu. Et troisièmement, eh ben oui, une partie du monde se joindra à elle. L'évangélisation portera ses fruits. Il est donc question de mission, il est question de consécration, ce n'est pas un individualisme pur, ce n'est pas non plus l'évangile du wellness, ou caresse dans le sens du poil, à faire un bon spa spirituel. Il est question d'une consécration pleine et complète envers Dieu et de charité. Il est question également de fermeté doctrinale et d'unité des croyants, l'un allant avec l'autre. Et c'est bien là l'enjeu. Et si on reprend le raisonnement de la pensée en Jean 17, j'essaie de le résumer. Jésus introduit le thème de la sainteté aux disciples, de façon assez générale, dans cette prière. Et il dit qu'il ne faut pas simplement demeurer dans la sainteté, comme si j'étais déjà parvenu à destination, mais y aller, y pénétrer plus avant, car les disciples ont la mission d'y introduire le monde. C'est la grande mission dont on a parlé de Matthieu 28. Et cette sanctification est une véritable consécration qui s'origine en Christ, puisque c'est Christ qui a été marqué du sceau de la sainteté ultime, de la consécration ultime qui vient du Père. Et alors quand il dit « sanctifie-les » ou « consacre-les », Jésus ne fait pas appel à une sanctification avec des rituels, que ce soit des rituels d'église ou des rituels qui peuvent être vécus dans n'importe quel groupe de jeunes d'ailleurs. Il s'agit avant tout d'une sanctification qui demande une volonté entièrement dévouée à Dieu, à son service. C'est la vie. En gros, il dit « soyez vivants ». Dans la sainteté pour laquelle je vous envoie. Et la vérité dont il est question est l'agent de la consécration. C'est le moyen par lequel peut s'opérer la sanctification. Et cette vérité-là se trouve dans la parole de Dieu adressée au monde par la bouche de Jésus qui nous est transmise dans la Bible. Vous voyez la logique. Oui, ta parole est la vérité, c'est bien la Bible. La Bible est la vérité, en ce sens qu'elle transmet tout ce que le Seigneur a dit et qu'elle est l'agent de la consécration. En d'autres termes, et pour simplifier, plus je lis la Bible, plus je la médite, plus je l'intériorise, plus j'y vois ce Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair en Jésus-Christ, plus j'entre dans un chemin réel et en vérité de consécration et de sanctification. Ce n'est pas à bien plaire. Et donc le savoir-connaissance dont parle Jésus, l'articulation qu'il fait, ce n'est pas n'importe quelle connaissance, ce n'est pas n'importe quelle compétence, ce n'est pas n'importe quel être, ce n'est pas n'importe quel devenir. Il y a un point fondamental. Qui est le Dieu Tout-Puissant, a envoyé son Fils, il l'a consacré, et c'est parce que cette consécration-là que nous pouvons être consacrés. Et par la parole qu'il a transmise, que nous pouvons réellement lire cette Bible comme parole de Dieu. D'où la nécessité de lire la parole de Dieu et de la reconnaître comme telle. Il y a là quelques autres versets que je trouve intéressants, à savoir, au fond, entre soumission à la parole inscripturée, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à nous soumettre à ce que la Bible dit, et suivance du Christ, c'est-à-dire suivre Christ, qui est la parole vivante, comment articuler tout ça? Eh bien, il y a une obéissance, et je crois que l'obéissance, c'est au fond une espèce de fil rouge que l'on retrouve dans les différents axes et dans la Bible elle-même. Il y a 1 Jean 5:3 que je lis en fait rapidement. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. On a l'impression que c'est facile, peut-être trop facile. Et pourtant, il est question d'un élément d'une facilité malgré tout à suivre ses commandements, et je crois que c'est possible dans l'obéissance. Non pas une obéissance qui oppresse, mais une obéissance qui libère. Elle peut libérer parce que je suis justement entré dans un chemin de consécration, comme le Seigneur lui-même nous l'a dit en Jean 17. Est-ce que l'obéissance est toujours facile? Parfois, elle est pénible. Hébreux 12, 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il y a un élément de correction, dit le texte. Pour participer à sa sainteté. Le chemin de sanctification n'est pas un chemin exempt de sacrifice pour Dieu. Dieu se présente comme Père des croyants. Dieu se présente comme dispensateur de la vie. Et Dieu attend de nous une obéissance joyeuse et persévérante. Et là, il y a une phrase de Maurice Ray qui me vient à l'esprit, qui m'a toujours frappé dans une de ses prédications, où il disait « Lorsque l'obéissance coûteuse arrive, on court vers le miracle qui nous l'épargnera. » Et je trouve d'autant plus intéressant que ça vient de Maurice Ray, qui aurait facilement prié pour les gens, facilement imposé les mains, facilement parlé de délivrance. Mais il était clairvoyant. Et il disait, attention, ne confondons pas. Il y a dans la vie chrétienne une obéissance et une obéissance qui est coûteuse. Et parfois, lorsqu'on prie, ça peut être une prière qui, sous couvert de spiritualité, est en réalité une prière qui est là pour nous faire échapper à l'obéissance coûteuse. Je crois que les textes dont nous avons parlé nous rappellent qu'il y a un chemin d'amour, de liberté, mais aussi de consécration et d'obéissance. Il y a des exemples historiques qu'on pourrait prendre, je passerai dessus, je vais juste les lister ici. C'est au fond le réveil de Genève, puisque le réveil de Genève qui est apparu, donc le premier réveil autour de 1816-1817, puis le second réveil autour de 1830-1832, a permis un extraordinaire développement de la foi chrétienne, non seulement ici à Genève, mais dans le monde entier. Parfois, on n'en est pas forcément conscient de l'impact mondial qu'a eu le réveil de Genève, et notamment le second réveil de Genève, où ils articulaient eux-mêmes ces différents actes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Là, j'ai un peu cité plusieurs choses à la suite. On retrouve dans le réveil de Genève des prières, et parfois des prières douloureuses. Une obéissance jusqu'au sacrifice si nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pasteurs qui ont été mis à la porte. Ils ont dit, voilà ce en quoi on croit et on ne va pas lâcher sur ce point-là. Notamment, la Bible comme parole de Dieu. Et ça a débouché sur, aujourd'hui vous êtes pasteur, lundi, vendredi prochain, vous déménagez d'où vous habitez, il ne doit plus rien avoir, et le dimanche d'après, ce sera quelqu'un d'autre qui viendra prêcher. Où vous irez loger, ça nous importe peu. Qu'est-ce qu'il adviendra de votre famille, ça nous importe peu. La seule chose qui importe, c'est que maintenant, vous devez partir. Et c'est ce qui s'est passé pour certains. Ça ne veut pas dire qu'on doit se complaire d'une espèce d'apologie du martyr, mais qu'il peut y avoir une obéissance qui est coûteuse, mais qui s'est fait selon l'adage qui vient d'ailleurs de saint Augustin, dans les choses essentielles unité, dans les choses secondaires liberté, en tout charité. Négligeant quand même pas la charité. Le réveil de Genève a créé le premier institut, la première faculté de théologie indépendante de tout le continent européen. C'était à Genève, donc à l'oratoire. Ils ont compris qu'il faut mettre l'accent sur les axes, les différents axes, oui, sur la prière, mais on va mettre l'accent sur le savoir, sur la connaissance. Mais une connaissance qui ne sera pas désincarnée, une connaissance qui sera axée sur la mission, avec une connaissance qui sera axée sur les enjeux de société. Rappelons que la Croix-Rouge est un fruit du réveil, puisque la première association de secours aux blessés de guerre a été créé dans les murs même de l'oratoire, au moment où il y avait les grands ténors du réveil. Louis Gossin, Jean-Henri Merleau-Bigny, etc. Et comment penser ça aujourd'hui? J'essaie de le développer de façon très simple au fond, et je terminerai un peu là-dessus, sur ce que dit le mouvement de Lausanne, qui dit « L'Église entière annonçant l'Évangile entier au monde entier. » L'Église entière, c'est un appel à l'unité, non pas une unité qui se fasse au détriment des vérités de la révélation divine, hein, on est bien d'accord, mais une unité qui ne se fasse pas non plus sans amour pour ce Dieu qui nous a aimés le premier et pour ce monde que nous sommes appelés à servir. L'évangile entier, c'est un appel à proclamer et à vivre avec intégrité et radicalité la vérité qu'enseigne la Bible, parole de Dieu. Et n'en pensons pas un seul instant pouvoir réussir parce que nous possédons aujourd'hui en Suisse argent, technologie, fortune ou que sais-je. Nous dépendons uniquement de la grandeur de l'évangile et de la puissance de Dieu, de l'aide et de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de la parole de Dieu. Et puisse cette parole de vérité être confirmée par nos vies, qui puisse soit joyeuse, transformée, authentique, radicale. L'évangile au monde entier, c'est d'abord reconnaître notre propre incapacité à vivre, à être pleinement peuple de Dieu. Et la déclaration de Lausanne rappelle cet impératif, je cite, « Lorsque nous transmettons l'invitation de l'évangile, nous n'avons pas le droit de cacher ce qu'il en coûte d'être disciple du Christ. Jésus continue d'appeler ceux qui veulent le suivre à annoncer la croix et à porter les marques de la croix. » Et c'était d'autant plus vrai et impressionnant d'entendre ce rappel-là de la déclaration de Lausanne que nous avons vécu il y a deux semaines, tout un séminaire avec des gens du mouvement de Lausanne qui vivent dans des pays où il y a de fortes persécutions, comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme la Syrie ou autre. Jusqu'à ce que le Christ revienne ou nous rappelle à lui, poursuivons tous jusqu'à la fin au service du Christ, notre roi. Et comment pouvoir transmettre cette espérance que nous avons dans la formation? Si je suis moi-même dans une position de formateur, puisque si vous êtes là, je suppose c'est avec cet esprit-là, il y a une magnifique petite phrase de Martin Lloyd-Jones, donc pasteur en Angleterre, pasteur baptiste, qui dit « Lorsque je prêche l'évangile, j'essaye dans la prière de faire en sorte que le Seigneur puisse me donner la sagesse de pouvoir toucher, comme il dit, the mind, donc l'esprit, la pensée, the conscience, la conscience, the will, la volonté, the emotions, les émotions. Il n'y a pas opposition entre raison et émotion. Il n'y a pas opposition entre savoir-connaissance et savoir-être. Il n'y a pas opposition entre une pensée radicalement enracinée dans la Bible et qui puisse être pertinente dans la société aujourd'hui et un caractère qui soit radicalement consacré et saint pour Dieu. En somme, nous sommes appelés à nous engager dans l'Église et dans la société avec pertinence, intelligence et charité, à discerner les difficultés que nous devons affronter et dessiner des priorités pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Amen.
Merci Jean. Alors nous arrivons à la fin. Comme Jean avait gardé ma montre, j'avais aucune idée de quelle heure il était.
Je croyais que c'était l'admis en fait.
Je ne voudrais pas grignoter la pause, puisqu'il y aura un autre atelier dans quelques temps. Et donc, désolé, on n'aura pas. Pas ce temps d'échange, mais rien n'empêche de l'avoir de manière plus informelle. N'hésitez pas à venir discuter avec nous et à favoriser les échanges entre vous pour réagir aux différents points qu'on a pu aborder cet après-midi. Merci pour votre... C'est 16h15, il me semble, hein ? C'est bien ça ? Très bien. Bonne pause et prochain atelier, 17h. Merci.